Alors, ce qui nous amène à la chronique des apatrides anonymes avec Simon. Alors,
salut Christian. Simon. Salut tout le monde. Ben, plusieurs sujets aujourd'hui, encore une fois. Sujets principaux, ben, on va parler du Canada. Donc, un cas particulièrement absurde de no-fly list, de false positive. Je vous en parle tantôt. Un récent jugement de la Cour suprême en rapport avec la loi sur l'immigration qui est quand même assez important. Pour faire écho un peu à la conférence de Tadamon, on va aller en France. Je vous parle de la jungle de Calais. C'est un sujet dont je voulais vous parler la dernière fois. J'avais pas eu le temps. Et si on a le temps, la déchéance de citoyenneté ou de déchéance de nationalité qui est actuellement en vigueur en France, c'est une grande nouveauté. Quelques brèves pour commencer. On parle beaucoup de racisme aux apatrides, donc on n'a pas le choix de parler de Donald Trump à l'occasion. Malheureusement, on s'en passerait bien parce que c'est pas mal. Je sais pas si on a déjà connu quelqu'un dans l'histoire politique américaine ou même mondiale aussi... aussi raciste, de manière aussi virulente. C'est assez hallucinant. Donc, il y a son dernier vidéo de propagande.
Les temps obscurs des années 30, sans se préciser.
Facilement. Oui, oui, facilement. Honnêtement, c'est pas nécessairement la même clientèle, entre guillemets, qui est visée, la même communauté. C'est principalement les musulmans, mais c'est assez fou quand même. Donc, son dernier vidéo de propagande, on y voit toutes sortes d'images. On y voit les assassins de San Bernardino, on y voit des images de Daesh. On voit aussi des hordes de Mexicains, soi-disant de personnes mexicaines, qui des foules de Mexicains qui traverseraient la frontière américaine. Et il y a un groupe qui s'appelle PolitiFact qui se spécialise dans la désintoxication médiatique, qui s'amuse un peu à aller chercher les arnaques intellectuelles, les mensonges, tout ça. Et on se rend compte que ce sont des images qui ont été tournées en Europe l'année passée, mais on l'associe au Mexique. Donc, c'est un peu pour faire peur à la population. Donc, c'est un exemple. Avec Trump, il y en aurait probablement beaucoup. Il y a beaucoup de déclarations au choc plus directes que ça, carrément racistes. Mais même si ça, avec les films de relations publiques avec lesquels il fait affaire, on se retrouve avec plein d'images fausses comme ça pour amplifier la peur. C'est assez inquiétant parce que normalement, ce genre de propagande-là vient plutôt de petits groupuscules d'extrême droite, mais là, ça vient peut-être prochain président américain. Donc, ben voilà, il faudrait... faire attention à ça. Ça rappelle un peu, je crois, vers les mois d'octobre, novembre dernier, il y avait une grosse mobilisation de droite en Europe contre l'exode massif de personnes réfugiées. On voyait toutes sortes d'images qui étaient fausses aussi, comme des bateaux qu'on présentait comme des bateaux qui arrivaient en Grèce, mais alors que c'est des bateaux qui arrivaient en Italie lors de la guerre des Balkans. On présentait des gens de bodybuilders tatoués, tu sais, qui débarquaient à un checkpoint en sortant d'un bateau. Mais finalement, c'était des clubbers australiens qui arrivaient sur une île où on présentait des raves. Il y avait eu toutes sortes d'intoxications comme ça. Donc, c'est quand même important, je pense, de débusquer puis de dire non, non, ça, c'est faux. Une autre brève, je sais pas si vous avez écouté, je sais pas si toi, tu as écouté Infoman 2015, la revue de l'année.
J'écoute religieusement Infoman.
Ben oui, moi aussi j'aime bien. L'introduction était quand même intéressante. Il était sur l'île de Lesbos en Grèce. On y voyait des fameux gilets de sauvetage de la mort qu'on appelle, qui sont des faux gilets de sauvetage. Il y a une dépêche qui est tombée cette semaine. Il y a un atelier de fabrication de faux gilets de sauvetage qui a été démantelé en Turquie, dans une petite ville. J'ai le nom dans mes papiers, en tout cas. À Izmir, c'est ça. Il y avait 4 employés, dont 2 femmes réfugiées syriennes, ce qui est toujours un peu triste, là, si on veut. Il y a des poursuites pénales qui vont être engagées contre le propriétaire. Et peut-être rappeler dans le même sujet que, ben, malgré que ce soit l'hiver, que normalement les traversées en mer, ça diminue beaucoup durant l'hiver. 2016, déjà, c'est mort. Il y a eu la plus grosse journée, qui est le 5 janvier dernier. Il y a eu 36 morts en mer Égée entre la Turquie et les îles grecques. Au Canada, maintenant, dans ce qu'on appelle le Canada, comme tu dirais, pour souligner l'aspect colonialiste de notre beau pays, on a un dangereux terroriste de 6 ans qui est identifié comme tel par Air Canada. C'est ce que je vous disais en introduction, les fameuses no-fly lists, les interdictions, les listes d'interdiction de vol, qui sont des listes un peu tout croche. On vous en avait parlé pas mal il y a quelques années, donc si vous avez fouillé nos vieilles chroniques, vous pourrez en entendre parler, mais ce sont des listes à la fois des gouvernements, d'agences de sécurité privées, d'organisations internationales, de compagnies aériennes. Ce sont des listes qui sont pas contrôlées, qui sont pas mises à jour, qui s'interalimentent, qui se contaminent finalement. Alors, ce petit garçon de 6 ans-là, qui vient de Toronto, qui s'appelle Syed Adam Ahmed. Il porte presque le même nom qu'une personne qui est sur la liste, qui s'appelle Syed Haris Ahmed. Donc, il porte même pas le même nom. Il se retrouve quand même sur les listes. Et il y a 6 ans, à chaque fois que ses parents et lui doivent prendre un avion, ils doivent passer par des contrôles de sécurité. Donc, évidemment, les parents trouvent pas ça drôle, mais s'inquiètent surtout pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer quand il va avoir 16 ans, 20 ans, ce garçon-là? Ça pourrait lui causer beaucoup de problèmes. Réaction d'Air Canada, nous ne contrôlons pas notre liste, ce qui n'est pas exactement vrai. Et réaction du transporteur aérien, on suggère de faire une demande officielle de changement de nom. Donc, plutôt que de mettre à liste ses jours, de contrôler ses données, on demande, finalement, on fait reposer le fardeau sur la personne qui est injustement accusée. Et juste vous dire, maintenant, tout étant tellement globalisé, Air Canada fait partie de Star Alliance, auquel appartient, je pense, Delta, British Airways, Air France, tout ça. Donc, à chaque fois que cette personne-là va vouloir prendre l'avion, ça va créer un problème. Sujet assez important, il y a eu un jugement de la Cour suprême récemment sur une partie de la loi sur l'immigration. On n'en a pas parlé, ça date de novembre dernier, mais je pense que c'est assez important, donc je vais en glisser un petit mot. Ce serait le premier effritement visible juridique de la réforme Harper. C'est en rapport avec le fameux bateau qui s'appelait le Sunsea, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui est arrivé à Vancouver en 2010 avec 500 personnes tamoules à bord. C'est un bateau dit clandestin, évidemment. Harper avait fait beaucoup de millages politiques là-dessus pour... il s'en était beaucoup servi pour justifier ces différentes réformes. Donc, en gros, le jugement dit que si des passagers à bord d'un bateau prennent la relève de l'équipage qui a abandonné le navire, ces personnes-là ne peuvent pas être considérées comme des passeurs. Ce que le gouvernement canadien faisait, considérait les personnes qui avaient pris la relève de l'équipage qui avait abandonné le navire une fois les 30 000 $ ramassés auprès des passagers. Ces personnes-là ont potentiellement sauvé la vie de centaines de personnes, mais on les considérait comme des passeurs, donc comme des criminels. Je vais vous lire quelques extraits d'un article de la presse canadienne qui explique mieux que moi je pourrais le faire, le phénomène. Des migrants tamouls ne peuvent être considérés comme des passeurs de clandestins simplement parce qu'ils ont remplacé au pied levé l'équipage d'un navire qui avait fait défection avant d'atteindre le Canada. Les autorités avaient déclaré interdit de territoire 4 Sri Lankais sous prétexte qu'ils avaient accompli des tâches, navigation, vigie, etc. sur le paquebot délabré et bondé qui avait été abandonné par l'équipage lors d'une escale. Leur dossier devrait être réexaminé par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a interprété de façon erronée une section de la loi. La Commission fondait sa décision sur l'alinéa 37 de la loi qui interdit de territoire toute personne s'étant livrée à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes, etc. Or, l'alinéa en question doit uniquement s'appliquer aux personnes qui posent des gestes pour assurer l'entrée illégale de demandeurs d'asile afin d'en tirer un avantage financier. Donc, c'est évidemment pas le cas dans cette situation-là. Bref, c'est un jugement de la juge Beverly McLaughlin qui est assez clair. C'est la Cour suprême, donc il n'y aura pas d'appel de ça. Comme je disais avant de parler de ça, c'est un premier effritement, c'est une première brèche dans toutes les réformes Jason Kenney, Stephen Harper. Peut-être que ça va ouvrir la porte à une réécriture de la loi ou à une réforme de la réforme. On verra. Ce serait intéressant. Il me reste du temps, pour une fois, c'est cool. Je voulais vous parler de la jungle de Calais. J'avais fait un petit dossier là-dessus. Donc ça, pour les... en France, quand on dit la jungle de Calais, je pense que ça résonne. Ça signifie quelque chose pour la plupart des gens. Ici, je sais pas. Tu l'as
mentionné, quand même.
Tu l'as déjà mentionné?
Non. Tu pourrais peut-être le mentionner, j'allais dire.
En fait, je vais définir ça, okay. Je vais en parler. Je vais parler aussi de l'actualité qui est autour de ça, parce qu'il se passe pas mal de choses. En fait, c'est à Calais, en fait, qui est la ville portuaire qui est la plus proche de l'Angleterre, donc qui est un lieu stratégique pour, d'un point de vue de transport en général. C'est là que l'Eurotunnel aussi, l'entrée de l'Eurotunnel. Et pour toutes les personnes qui souhaitent migrer vers l'Angleterre, c'est un point de passage obligé. Et la frontière avec l'Angleterre est de plus en plus étanche, carrément imperméable. C'est pratiquement impossible maintenant de passer. Donc, ça fait plus de 10-15 ans, je pense, qu'il y a des camps à Calais de personnes réfugiées. Mais depuis que la frontière est infranchissable, évidemment, ça fait un genre de goulot d'étranglement. Ça s'accumule. Donc, on se retrouve avec des 5-6 000 personnes. C'est variable. Il n'y a pas de données officielles, évidemment. on qualifie de plus gros bidonville d'Europe. Je crois que c'est vrai. Je n'ai pas connaissance qu'il y en ait d'autres de cette ampleur-là. Ça se trouve dans des boisés à la lisière de la ville, dans des terrains industriels qui sont contaminés. La partie principale, qu'on appelle la jungle principale aussi, se trouve dans une ancienne décharge publique et elle contient à elle seule 1500 personnes. Il y a plusieurs autres petits camps satellites autour. Une des raisons pour lesquelles le camp se trouve à cet endroit précis, c'est que c'est à côté de l'autoroute qui mène à l'Eurotunnel. Donc, beaucoup de personnes, la nuit surtout, essaient de profiter de convois de camions pour s'accrocher à des camions, carrément. Donc, c'est constitué principalement de tentes, d'abris de fortune, quelques constructions un peu plus permanentes. L'origine principale des personnes qui habitent la jungle de Calais, c'est d'origine afghane, du Darfour, de Syrie, d'Érythrée et d'Irak, principalement. Donc, évidemment, avoir ce qu'on appelle une jungle dans cette France dont on parlait tantôt dans la conférence, ça fait pas l'affaire de beaucoup de monde, donc des politiciens, des politiques, quoi, des municipalités, la droite, les riverains, les compagnies de transport qui veulent passer par là. Donc, régulièrement, il y a des tentes qui sont détruites, des tentes et des constructions qui sont détruites. On renvoie des gens vers des centres de détention, mais en général, au fur et à mesure que ça s'est détruit, c'est reconstruit à peu près aussi rapidement. Et la population, en guillemets, demeure relativement stable et une tendance légère à l'augmentation avec les années. Récemment, il y a eu un jugement judiciaire à la demande de Médecins du Monde qui a saisi les tribunaux pour contraindre les autorités à construire des installations sanitaires de base, des points d'eau, des points d'électricité, une collecte minimale des ordures, quelques toilettes, quelques douches. Donc, ça va être fait, ou si ce n'est déjà fait, mais seulement dans le camp principal. Donc, pendant 15 ans, il n'y a jamais eu d'eau potable, il n'y a jamais eu de collecte des ordures, il n'y a jamais eu rien de tout ça. On voit parfois des policiers, des CRS qui sont assez épeurants. Donc, je ne sais pas si, peut-être aussi pour le monde au Québec, on ne sait pas trop c'est quoi les CRS. C'est le genre d'escouade tactique, des très, très gros monsieur, tout habillés en noir, très armés. On les voit parfois patrouiller avec des masques à gaz. Donc, à l'occasion, ça crée de la panique. Des fois, on craint qu'il y ait des épidémies de gale ou de tuberculose. On ne sait pas trop pourquoi on fait ces genres de patrouilles-là. Il pourrait y avoir des patrouilles sanitaires, mais sur des patrouilles de policiers. Et de toute façon, on constate, les organisations qui sont sur place constatent qu'il n'y a pas plus de cas de tuberculose ou de gale dans cet endroit-là que dans le pays en général. Parfois, on voit des policiers masqués parmi les plus brillants, j'imagine, de leurs effectifs, qui s'amusent à tester leurs bombes à aérosol de décontamination sur des tentes ou sur des personnes. En novembre dernier, il y a eu un raid. Il y a eu 600 personnes qui ont été emprisonnées d'un coup dans un centre de détention administratif. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, promettait, lui, des reconduites à la frontière. Mais la plupart de ces expulsions-là sont pratiquement impossibles puisque la plupart des personnes visées proviennent de pays en guerre. Donc, on ne peut pas les expulser. Récemment, il y en a eu un. Il y a eu un monsieur soudanais qui a été renvoyé du camp vers le Soudan. Et ça a été vivement critiqué, évidemment. La justice ou la préfecture, de toute façon, elle-même ordonne généralement la libération des personnes emprisonnées après quelques jours. Et la plupart de ces personnes-là retournent à la jungle de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, affirme que les mesures d'enfermement sont assez dissuasives pour éventuellement arriver à vider Calais. Donc, c'est l'expression qu'il utilise, mais cette pratique-là, cette politique-là est appliquée depuis des années et ça ne fonctionne pas. Le ministre aurait émis la directive de cesser d'emprisonner les gens non expulsables, donc comme on disait tantôt, qui viennent de pays en guerre, mais la majorité des personnes le sont non expulsables, mais la police semble plus ou moins confuse avec cette directive-là.
Une minute à peu près.
Okay. Alors, je vais passer à l'actualité. Je parlerai de déchéance de nationalité une autre fois, donc une mesure qui est maintenant appliquée en France, là où la citoyenneté est supposément sacrée. Le climat dans la jungle de Calais s'est considérablement dégradé dans les derniers jours. Donc, en janvier 2016, il y a des nouveaux acteurs qui sont en jeu, dont des groupes de droite qui sont plus violents que d'habitude, qui s'appellent les Calaisiens en colère. Il y a aussi des groupes de gauche qui viennent se porter à la défense des personnes qui se trouvent dans le camp. Ça crée toutes sortes d'affrontements. Il y a de plus en plus de tirs de gaz lacrymogènes qui sont envoyés, parfois directement dans les tentes où des familles habitent. Bref, c'est le bordel. On ne sait pas comment ça va se régler. Je vais conclure là-dessus. Moi, j'invite les gens peut-être à faire des petites recherches sur Internet. C'est un sujet assez intéressant. Il y a toujours de l'actualité autour de ce sujet-là. Et merci beaucoup.
Bien, merci infiniment, Simon, pour la chronique des apatrides anonymes, toujours aussi intéressante qu'à l'habitude.
Merci beaucoup.
Alors, vous êtes toujours sur En profondeur à CKUT 90.3 FM, à ce qu'on appelle Montréal.